il y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, les anarchistes.
Ouais, ouais, moi je suis un anarchiste. Ouais, ouais, moi je suis un anarchiste. Ouais, ouais, moi je suis un anarchiste.
Give me an F! Give me a U! Give me a C! Give me a K! What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell?
Ça y est, on est à l'antenne. Bon, on en est où du feuilleton? La fatigue, la folie et la boisson avaient entamé les équilibres. Route 77, épisode 30, suite du chapitre 13, alcool et mauvais vin. Nous bûmes et rebûmes. L'unijambiste récidiva et cette fois, je l'ai attrapé par le col. Dégage ! J'ai esquivé un coup de poing. Assis, il était fort de ses bras musclés par son handicap. Le petit brin qui s'était rassis s'est levé d'un bond pour secourir son frère. Légère échauffourée, Botus protesta, le grand intervint. « Oh là, arrête !» À l'attention du brin, « Fous-nous la paix, débile !» Ou déséquilibré. « Ha ha ! Ils sont un peu nerveux !» Envers Botus qui paraissait fâché. « Ha ha !» Était venu le moment d'en découdre incisivement. Nous avions bien jaugé nos adversaires. Nous devions déclencher l'offensive. Le taré était presque cuit par l'eau de vie. Il ne voulait plus boire. Botus vint à ma rescousse 10 secondes pour lui faire ingurgiter la goutte fatale qui l'acheva. Sa tête chuta raide sur la table, un de moins. J'ai enjambé l'unijambiste. Debout, en carré, moi face au petit brin et Botus face au grand roux, nous étions devant des durs de durs. La bouteille d'alcool fort était vide. Le feu ithylique ravageur rendait chacun fragile comme du verre. Le plus fort serait le plus sereinement fou, celui qui provoquerait le plus à l'appui du meilleur cynisme. Botus scanda. À boire, encore à boire, sors encore une bouteille! En commandant le Manitou de la caravane. « On n'a plus que du vin. Amène ton vin !» Il s'exécuta. Botus m'a chuchoté. « Attention maintenant. Tu t'occupes du petit. » En train de caler le pauvre frère K.O. pour ne pas qu'il tombe sur le plancher. « Je m'occupe du grand. Ok ? Dakodak. » T'es sûr que tu vas arriver à te le faire ? T'occupe, fais attention au tien. un autre coup de gros rouge. Et incident majeur. Le grand brisa un œuf frais et en avala le contenu. Bottus. Salaud, tricheur, tu me déçois. Je te croyais solide, traître. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai posé cette question au guerrier prêt à se jeter à corps perdu. Le petit me heurta de l'épaule et bomba ses pectoraux contre mon torse peu enclin à ce genre de démonstration. Je restais froid, proche à lui attraper le cou, attendant la réponse de Bottus. Il a gobé un œuf cru pour ne pas être plus saoul. J'avais déjà bu avant, justifia le colosse. Et alors, arrogant Bottus, t'en veux un ? Pas besoin. Bottus choisissait la difficulté pour son estomac car l'œuf y isole l'alcool, mais préférait prendre de la sorte un ascendant psychologique. J'ai poussé mon vis-à-vis aux épaules, les fixé dans les yeux pour lui virtualiser le coup de tête que je me contenais de lui fiche. Bottus se sentait fort aussi. Le manque d'assurance manifesté par son adversaire direct l'a stimulé. Il l'a refait boire méthodiquement, inventant même une espèce de concours pour accélérer la cadence. Bottus buvait en même temps. Bras de fer de la soûlerie. Je craignais pour mon collègue. Il me rassura partiellement par un regard déterminé me révélant sa certitude d'être champion toute catégorie. Dans ma relation au cadet, j'imitais Bottus au plus près en poussant l'ivrognerie avec moins de quantité. Nous tentions notre chance, notre malchance, à nous bourrer la gueule avec eux. Côté conversation, Bottus et le gaillard se braillaient leurs conneries sur leur biture de leur carrière de soulard. Le petit et moi, nous sommes à peine parlés de braquage de tiroir-caisse. L'heure d'une confrontation irraisonnée approchait. À suivre. À suivre, à suivre, à suivre, à suivre, à suivre, à suivre, à suivre.
En marche. Vous estimez que vous êtes en marge ?
Au niveau de notre pollution,
c'est pas la joie, c'est pas la joie.
Ou au niveau de la télévision,
c'est pas la joie, c'est pas la joie.
Ou au niveau de la montée des prix,
c'est pas la joie, c'est pas la joie.
Oh, 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 au niveau des embarras de Paris,
c'est pas la joie, c'est pas la joie.
Y'a encore qu'au niveau de l'amour que ça marche toujours. Au niveau de l'environnement,
c'est pas la joie, c'est pas la joie.
Au niveau de la gueule des passants,
c'est pas la joie, c'est pas la joie.
Au niveau de la contestation,
c'est pas la joie, c'est pas la joie.
Au niveau des manifestations,
c'est pas la joie, c'est pas la joie.
Y'a encore qu'au niveau de l'amour que ça marche toujours. Nos petites feuilles d'impôt,
c'est pas la joie, c'est pas la joie.
Non, 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 au niveau du cinéma porno,
c'est pas la joie, c'est pas la joie.
Non, 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 au niveau de la dévaluation,
c'est pas la joie, c'est pas la joie.
Au niveau de la surpopulation,
c'est pas la joie, c'est pas la joie.
Ah, y'a encore que du bon amour, que ça marche toujours. Quand j'ai ton cœur contre mon cœur, ça marche à 100 à l'heure. Entre toi et moi, ha,
c'est la joie.
Non, 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 non.
C'est la joie.
De l'épisode précédent, nous en étions là, l'heure d'une confrontation irraisonnée approchait. Route 77, épisode 31, suite du chapitre 13, alcool et mauvais vin. L'aube nous appelait à venir respirer l'essence de son âme régénératrice. Par une fenêtre, je distinguais le puits. Je me permis. C'est là que ça s'est passé ?
Il parle du puits, déclara le petit au grand.
Ha ha, le puits !
De là, Botus chargea.
Les Troquen Morbeau vont ouvrir. « Viens, Pascal, on s'arrache. »
Surpris, le grand.
« Quoi ? Ça va pas ? Vous allez pas y aller à pied ?»«
On y trouvera un stop. Peut-être. »
Botus prononça « peut-être » comme on envoie une pierre sur l'eau pour faire un ricochet.
« On va pas se laisser maintenant. »
Point d'honneur.
« On va prendre la voiture. On va vous déposer à Morbeau. Hein, frérot ?»
Le petit brin opina positivement. L'abêtissement par l'alcool forçait ses traits méchants. Il était temps de changer de rythme. Et le brusque revirement de Botus a été salutaire. Il ne s'était pas laissé distraire. Rusé, il a maîtrisé les rapports de force. Nous allions pouvoir quitter la caravane maudite du terrain empoissé de haine sordide. Dehors, l'air vif me ravigota et tandis que mes membres se détendaient, l'entrevue d'un horizon naturel me tentait d'espérer. Quatre Olibrius, noircis de misère spirituelle, s'accordaient aux vibrations de la terre en éveil. Nous étions tous fatigués, rompus par l'ébriété. Nous nous calâmes assez lourdement dans la tire. Le frein à main desserré, nous glissâmes sur la courte descente du monticule maléficié. Le moteur démarra en bas. Lancés dans les chaos du chemin, nous riâmes fort ensemble. Sujet d'une barbarie, comme des soldats celtes ou vikings à l'assaut d'une forteresse. Épousant leur sort, vomi par un Lucifer damné d'un paradis même quelconque. Nous étions très moches, très malheureux au fond. Nous riâmes pour la dernière fois. Route 77, chapitre 14, 8 heures du mat. Sur la route, nul bavardage, uniquement la route. Parvenir à Morbeau était le seul but, la seule issue, la fin. Une guimbarde d'outre-mort. Quatre fils du néant acceptaient l'inéluctable destin abscond de leur perdition. Aucun sauvetage n'était envisageable. Aucune bouée dans la mer des illusions désuètes. Une force de toutes les faiblesses acheminait quatre paumés par un tunnel de noirceur irrationnelle. Botus et moi partagions le sentiment d'avoir échappé au pire dans la nuit. Le transfert sur Morbeau de l'inévitable combat, défoulement de haine personnelle, semblait nous favoriser. Une fois le rideau tiré, nous prendrions une autre route. Ainsi se dessinait au mieux notre perspective. Nous en dégagions une vision floue au-delà de notre réalité cauchemardesque. Nous tirions de nos communications oniriques un élixir moral de supériorité, parce que notre survie n'avait tenu qu'à nos illuminations, parce que l'obligation de dominer les débats devenait complètement vitale. Car comment se dépêtrer de cette histoire sans avenir qu'en éliminant nos deux compères de déglingue? Il n'y avait pas d'autres formules concevables. À suivre. 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 Si, c'est quelque chose d'assez rarissime, quoi. Il y a maintenant, disons, je trouve trop peu d'auteurs et de gens donc qui ont donc bon, l'expression là du chant. Je sais pas, j'aime pas trop appeler ces gens forcément des chanteurs ou des, je trouve que c'est très péjoratif à leur sujet, parce que ce sont vraiment des créateurs, je dirais presque des expressionnistes. Et là, dans ce registre-là, oui, là, le choix qui est fait, c'est Diane Dufresne.
Oui.
Et avec un morceau, un peu fou, quoi, on peut dire.
Ah oui, oui, complètement délirant au niveau vocal, surtout sur la fin, vous allez pouvoir le constater. C'est donc Diane Dufresne enregistrée en 1978 à l'Olympia, Laissez passer les clowns.
Jusqu'au petit matin, laissez passer les clowns. On peut tout donner pour un grand amour, jour le jour. Mais au bout du compte, y a rien qu'une chose qui compte. Laissez passer les
à suivre. À suivre, à suivre. Route 77, épisode 32, suite du chapitre 14, 8 heures du mat. Trou noir. Morbeau, si enchanteresque la veille, si riche en sensations multiples, était subitement devenu un trou noir. Le bar dans lequel nous échouâmes était un gouffre s'enfonçant dans la profondeur de la planète, un îlot d'enfer, théâtre d'une guerre qui ne peut être gagnée que par le plus désespéré, celui qui a le plus mal à l'âme, Botus. Il avait mal pour nous tous, pour le monde entier. Botus était médium de la souffrance et de la délivrance de l'homme. Il était un demi-dieu du temps moderne. L'autre part de lui-même, la moitié humanoïde, était un guerrier zonard impitoyable envers chacun, qu'il soit son ennemi ou son frère. 8 heures du mat et quelques. L'esprit pris dans un tourbillon nauséeux, je voyais trouble et entendais sourdement. L'errance en finissait de déchirer les dernières volontés. Les instincts crucifiés s'arrachaient le cœur, livraient l'opacité de leur sens déchu aux griffes et dents de démons diaboliques qui, tapis dans l'ombre des mémoires reptiliennes, se repaissent des haines innocentes et des destructions coupables. Quatre gredins étaient unis d'un même lien au lieu commun de l'anéantissement de toutes les valeurs. Autour de nous, dessous, dessus, partout, le néant. Et nous, un vide de vertu. Au premier demi de bière, nous avons trinqué tels de vieux amis qui se retrouvent après des sorts éparses. Ma boisson préférée enorgueillait ma conviction impérieuse d'être plus fort que l'adversaire. Dernier champ de bataille de la guerre des misérables. Le comptoir du bar vit défiler la tournée de chacun. Nous vidions nos bocs à grande gorgée sous l'influence oppressante de Botus. Lui, le demi-dieu lutin, exacerbait l'homo animal titan à coups de vexation plus ou moins calculés. Il le provoquait à boire vite, en lui sapant le mental avec des histoires de marins qui ne retrouvent jamais leur port d'attache, trimballés de mers en mer et d'îles inconnues en terres hostiles parce que leur âme erre dans les limbes d'une antique malédiction. Le massif se sentait implicitement visé et contre-attaquait vainement en essayant de vanter les naufrages dont il s'était rescapé. Il réagissait mal, en ne parlant que de lui maladroitement. Botus avait déclenché un climat de tempête intérieure qu'un psychanalyste même aurait difficulté à maîtriser. Je compris que le géant était fait comme un rat. Quand Botus demanda des ricards, je sus l'apocalypse proche. Le petit Vislard m'agressait verbalement et me bousculait maladivement. Je ne comprenais rien. Je ne sentais rien. Je ne visais qu'une chose. Le terrasser bientôt. Très bientôt. Il était mûr. J'étais impassible à ses singeries arrogantes. Je réunissais mes forces et contenais l'énergie qu'il me restait dans la perspective de la bagarre imminente. J'attendais, le dos appuyé contre le comptoir, équilibré par mes coudes. Mes bottes me démangeaient en fourmillement.
je savais ce que j'allais faire. Enfin, tout alla très vite, en une bribe de temps. En quelques secondes, l'univers fut bouleversé. Le grand gros commit un râle d'agonie, s'effondra sur les genoux. Potus l'avait tué au jaune pur. Afin de l'abattre définitivement, royalement, il lui tendit sous le nez un verre bien dosé. Un haut-le-cœur de dégoût déforma la figure du perdant. Potus porta le liquide anisé à ses lèvres et le but lentement en fixant sa victime à l'instar d'un matador devant le taureau dans l'ultime phase de la corrida, la mise à mort. Réduit à regarder Potus en levant les yeux, le géant était devenu nabo. Dans un geste jubilatoire, majestueux et viril, Potus a brisé le verre sur le front de l'infortuné qui s'écroula le nez contre le carrelage. À suivre.
Chanson dans le sang. Il y a de grandes flaques de sang sur le monde. Où s'en va-t-il tout ce sang répandu? Est-ce la terre qui le boit et qui se saoule? Drôle de soulographie alors, si sage, si monotone. Non, la terre ne se saoule pas. La terre ne tourne pas de travers. Elle pousse régulièrement sa petite voiture. Ses quatre saisons, la pluie, la neige, la grêle, le beau temps. Jamais elle n'est ivre. C'est à peine si elle se permet de temps en temps un malheureux petit volcan. Elle tourne la terre, elle tourne avec ses arbres, ses jardins, ses maisons. Elle tourne avec ses grandes flaques de sang. Et toutes les choses vivantes tournent avec elle et saignent. Elle s'en fout, la terre, elle tourne. Et toutes les choses vivantes se mettent à hurler. Elle s'en fout, elle tourne. Elle n'arrête pas de tourner et le sang n'arrête pas de couler. Où s'en va-t-il tout ce sang répandu? Le sang des meurtres, le sang des guerres, le sang de la misère, et le sang des hommes torturés dans les prisons, le sang des enfants torturés tranquillement par leur papa et leur maman, et le sang des hommes qui saignent de la tête dans les cabanons, et le sang du couvreur quand le couvreur glisse et tombe du toit, et le sang qui arrive et qui coule à grands flots avec le nouveau-né, avec l'enfant nouveau. La mère crie, l'enfant pleure, le sang coule, la terre tourne, la terre n'arrête pas de tourner, le sang n'arrête pas de couler. Où s'en va-t-il, tout ce sang répandu, le sang des matraqués, des humiliés, des suicidés, des fusillés, des condamnés, et le sang de ceux qui meurent comme ça, par accident. Dans la rue passe un vivant, avec tout son sang dedans, soudain le voilà mort, et tout son sang est dehors, et les autres vivants font disparaître le sang. Ils emportent le corps, mais il est têtu le sang. Et là où était le mort, beaucoup plus tard, tout noir, un peu de sang s'étale encore. Sang coagulé, rouille de la vie, rouille des corps. Sang caillé, comme le lait. Comme le lait quand il tourne comme la terre qui tourne, avec son lait, avec ses vaches, avec ses vivants, avec ses morts. La terre qui tourne avec ses arbres, ses vivants, ses maisons. La terre qui tourne avec les mariages, les enterrements, les coquillages, les régiments. La terre qui tourne et qui tourne et qui tourne avec ses grands ruisseaux de sang.
Potus a brisé le verre
sur le front de l'infortuné qui s'écroula le nez contre le carrelage. Route 77, épisode 33, suite du chapitre 14, 8 heures du mat.
Ces temps-là, t'as pas beaucoup changé. Je trouve un magané, puis encore mes poignets. En deux joints, tu pourrais faire quelque chose. En deux joints, tu pourrais grouiller le cul. Ta soeur est aux États, ton frère est au Mexique. Ils font de l'argent là-bas pendant que tu chômes.
Le petit bagarreur m'a lorgné férocement. Je lui ai balancé un coup de botte, semelle et talon, en pleine poitrine. Il a reculé à la renverse, s'est rattrapé, s'est jeté en avant pour m'atteindre d'un coup de poing direct que j'ai esquivé tout en lui assénant un uppercut au menton. Il alla se sonner la tête contre le comptoir. Il n'en a pas fallu plus. Allongé au sol, il bredouilla faiblement mais demeura étalé. Il faut dire que sans m'être cogné la tête, j'avais déjà toute difficulté à tenir debout. Botus tenait tout autant miraculeusement sur ses jambes. Personne n'a réagi dans la salle. Le patron figea son geste d'essuyer une vaisselle. Aucun des clients n'a bronché. Les respirations semblaient bloquées. Nous avions vaincu les réputés frères Graves. La vie était retenue par le fil de notre décision. Allions-nous casser le bar à coups de tabouret pour le rock'n'roll ? Pendant une infimité temporelle, le monde était à nous. Aussi, nous avons crié. Nous voulons le monde et nous le voulons. Nous voulons le monde maintenant, now. Nous sommes partis en titubant. À ma vue trouble s'est substitué un brouillard bleuté qui désépaississait à l'approche de la sortie. Sur le trottoir large de l'avenue, les passants nous contournaient. La petite ville était très animée. Circulation automobile, travailleurs, flâneurs, commerces ouverts, ménagères, etc. Tout ce qui ressemble au quotidien en plein matin. Le ciel, gris clair, propageait un éblouissement malsain. Il fallait filer, pensais-je. Ne restons pas là, viens, Botus, allons à la gare. À la gare? Oui, prendre un train. On ne va pas zoner dans les parages après ce qu'il vient de se passer. Tu veux retourner à Palais? Pas forcément. J'y songeais fortement. On ne part pas comme ça. On va trouver une bagnole. Un stop? Ça va pas être évident. Non, on va braquer une caisse. Hein? Dans l'état qu'on est? Viens, on est trop pété. Marchons tranquillement vers la gare. On va se tirer d'ici en voiture, je te dis. Et on roulera comme Dean et Jack. Jusqu'au Mexique. Tu délires trop. Faut qu'on se pose d'abord, qu'on réfléchisse. Y a rien à réfléchir, brancos! Il précipita son poing droit contre ma pommette, puis me frappa au ventre avec son gauche. Je n'étais qu'à moitié surpris. J'avais déjà pensé que nous pourrions nous battre. Il aura fallu l'exacerbation d'une nuit mésaventureuse pour cela.
J'ai vite répliqué en lui envoyant un coup de pied de côté à hauteur des hanches et un coup de poing approximatif au visage. Il rua alors, me saisit pour m'étrangler. J'essayais de le renverser comme au judo. Nous avons trébuché, sommes tombés, nous sommes relevés et empoignés en nous cabossant sur plusieurs mètres. Jusqu'à ce qu'enlacés de lutte, nous nous heurtions à une voiture parmi celles garées au bord de la chaussée. Secoués et essoufflés, nous nous arrêtâmes de combattre. Nos yeux étaient larmoyants, usés par une peine indicible, celle de deux frères qui se reconnaissaient après la crise. Parole de Botus. « T'es mon frère. Viens avec moi. On va à Frisco. Hier, à Frisco !» L'éclair de son délire me charmait magnétiquement. Frisco, nom magique. À suivre. Pour plus et davantage, retrouvons-nous sur le blog En Marge.
Celui-ci, il passe vraiment très très rarement en radio, je crois même que je ne l'ai jamais entendu.
C'est pour ça que je le voulais.
Voilà, et donc c'est Claude Nougaro.
Oui, spécial là, un spécial Plume d'Ange.
Voilà, donc un extrait, puisque le morceau fait une quinzaine de minutes. Donc on va écouter à peu près les quatre premières minutes de ce morceau complètement délirant.
Vous voyez cette plume ? Eh bien, c'est une plume d'ange. Oh, rassurez-vous, je ne vous demande pas de me croire. Je ne vous le demande plus. Pourtant, écoutez encore une fois, une dernière fois, mon histoire. Une nuit, je faisais un rêve désopilant quand je fus réveillé par un frisson de l'air. J'ouvre les yeux. Que vois-je ? Dans l'obscurité de ma chambre, des myriades d'étincelles. Elles s'en allaient rejoindre par tourbillonnement magnétique un point situé devant mon lit. Rapidement, de l'accumulation de ces flocons aimantés, phosphorescents, un corps se constituait. Quand les derniers flocons eurent terminé leur course, un ange était là, devant moi. Un ange réglementaire, avec ses grandes ailes de lait. Comme une flèche d'un carquois, de son épaule, il tire une plume, il me l'attend, et il me dit, c'est une plume d'ange. Je te la donne. Montre-la autour de toi. Qu'un seul humain te croie, et ce monde malheureux s'ouvrira au monde de la joie. Qu'un seul humain te croie avec ta plume d'ange. Adieu, et souviens-toi, la foi est plus belle que Dieu. Et l'ange disparut, laissant la plume entre mes doigts. Dans le noir, je restai longtemps, illuminé, grelottant d'extase, lissant la plume, la respirant. En ce temps-là, je vivais pour les seins somptueux d'une passion néfaste. J'allume, je la réveille. Mon amour, regarde, regarde cette plume. C'est une plume d'ange, oui, un ange était là, il vient de me la donner. Oh ma chérie, tu me sais incapable de mensonges, hein, de plaisanteries scabreuses. Mon amour, il faut que tu me croies et tu vas voir. Le monde! La belle, le visage obscurci de cheveux, d'araignée de sommeil, me répondit: Fous-moi la paix, Je voudrais dormir et cesse de fumer ton satané Népal. Elle me tourne le dos et merde. Au petit matin, parmi les nègres des poubelles et les premiers pigeons, je filais chez mon ami le plus sûr. Je montrais ma plume à l'Afrique, aux poubelles et, bien sûr, aux pigeons qui me firent des roucoulements de considération admirative. Je sonne. Voici mon ami André. Posément, avec précision, je vidais mon sac biblique, mon oreiller céleste. Tu m'entends bien, André ? Qu'on me prenne au sérieux et l'humanité tout entière s'arrache de son orbite de malédiction guerroyante et funeste. À dégager, fini la souffrance, la sottise, la joie, la lumière débarque.
Hola, lâche-moi, il y a le feuilleton qui commence. Route 77, épisode 34, suite du chapitre 14, 8h du mat. Nous nous étions tamponnés à une deux chevaux bleue classique. Botus considéra sérieusement le noble véhicule. Il le contourna expressément. Se dressa d'un spasme devant la portière conducteur, tira son couteau de sa poche, le déplia doucement et le porta au-dessus du toit décapotable en toile en me braquant d'un sourire destroy. Il planta sèchement la lame dans la capote puis l'entailla lentement. Il grimaçait. Il se laminait le cœur. J'avais mal aussi. Par cette déchirure, nous franchissions une frontière carrément craignos. Il fallait donc faire vite à partir de là, de ça, ça. Ce qui nous faisait agir ainsi, à cause de ce qui nous a été pris à la naissance ou un peu après, histoire de déraciner. Botus plongea le bras dans la faille, déverrouilla la clenche, ouvrit la porte, se glissa sur le siège, débloqua le côté passager où je me suis embarqué avec grande nervosité. « Démarre, ta gueule, grouille, y a du monde !» Il bricolait dessous le volant, certainement les fils, je ne distinguais plus grand-chose. Hors de l'habitacle, les formes m'étaient fantomatiques. Je ne discernais que des couleurs pastels mouvantes, hachurées par quelques traits sombres. Mixage contradictoire de Gauguin et Buffet dans le même tableau. Je m'énervais. « Alors, tu démarres ? Ferme-la ! Surveille que personne ne vienne ! Magne-toi, il y a du monde !» Il s'affolait à essayer de démarrer. Il avait laissé beaucoup de conscience dans l'alcool. La nuit et une certaine souffrance métaphysique. De plus, il n'avait pas le permis et je ne l'avais jamais vu conduire. Je me rappelais qu'avec Ali, ils avaient failli se tuer dans une auto volée. Ils ne savaient pas conduire. Nous étions mal barrés. Vroom, vroom, frombissement béni des saints. Trop excité par cette réussite, Botus enclencha hâtivement une vitesse et cala le moteur. Il jura et réitéra son exploit.
Yeah.
crus voir un encerclement d'hommes en costume noir. Subitement, je les vis se précipiter vers nous. Ils étaient nombreux, environ une douzaine. Ils lancèrent l'assaut. Le temps semblait ralenti. Les images devinrent floues au moment où ils abordèrent la voiture. Paranoïa intense. Alors que Botus s'acharnait et calait à nouveau, je me suis mis à aboyer. Les flics, les flics! Il releva la tête. Où ça? Partout, on est pris, partout! Parano contagieuse. Vit-il pareil que moi? Dominé par la panique, nous éjectâmes et courâmes en sens opposé. Route 77, chapitre 15, Église Blues. Après quelques enjambées, étonné de ne pas avoir été intercepté par les policiers, je me suis retourné pour voir ce qu'advenait le frangin. C'est ainsi, dans les plans foireux, la trouille d'être serré par les condés provoque la dispersion. Pourquoi n'avions-nous pas eu la jugeote de plier ensemble? Sauf qui peut. Vaguement, j'aperçus l'aura de Botus. L'autre part de moi-même. Des chimères nous séparaient. Ils étaient en train de l'attraper. J'en étais certain. Ils s'étaient lancés plus contre lui que vers moi. Je me suis dit de prendre ma chance. J'ai couru de toutes mes forces sans davantage réfléchir. J'ai galopé longtemps, quitté le centre-ville très peuplé pour zigzaguer dans les rues anciennes. Mes nerfs me lâchaient. Je pleurais de crise. À suivre, à suivre, à suivre, à suivre, à suivre, à suivre.
On marche.
Vive la vie. Vive la vie, celle qui t'a appris que chaque chose a un prix. Et vive la vie. Vive la vie quand elle te chacun pour sa gueule et bienvenue chez les grands. T'es un homme maintenant, mets les pieds sur terre. Fais ce que t'as à faire, vas-y rentre dedans. Fais-y voir tes dents, et si tu sais y faire, ça va vite te plaire. Ta chance, tout le monde se démène, se déchaîne, cogne tout en cadence. Et n'oublie pas, prendre un air désolé, et un, deux, trois.
change de sens. Ah tiens, il y en a plein qui sont fait allumer. La danse,
un croche-pied,
c'est la valse des hyènes. En scène, eh bien, tentez ta chance.
Aïe mon nez,
tout le monde se démène, se déchaîne.